Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Myriam Lemaire.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Francis Ball, professeur de sciences politiques à l'Université Panthéon-Assas de Paris 2, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur la communication, l'IREC, de l'Université Paris 2. Monsieur Francis Ball est aussi professeur invité depuis 1981 à l'Université de Stanford en Californie. Monsieur Ball, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie et à la mienne.
Bonjour.
Comme nos auditeurs fidèles le savent, vous êtes l'universitaire français le plus reconnu dans le domaine des médias.
L'un des, ne dites pas tout de suite le.
Je persiste et signe, l'universitaire français le plus reconnu dans le domaine des médias, de l'information et de la communication, auquel vous avez consacré l'essentiel de votre carrière. Vous avez en effet dirigé l'Institut français de presse dès 1976. Vous avez été ensuite vice-chancelier des universités de Paris, avant d'être nommé en janvier 1989 membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, au sein duquel jusqu'en 1993, vous étiez en charge notamment du spectre hertzien, des nouvelles normes et des nouvelles technologies. Vous avez aussi été membre du conseil d'administration de Radio France et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur les médias, dont le plus fameux est Médias et Société, que nos auditeurs connaissent, puisque nous avons consacré en 2008 une émission à la 13e édition de cet ouvrage. C'est une véritable bible des médias que vous avez publié la première fois en 1980 et que très régulièrement vous refondez et mettez à jour. Vous dirigez aussi et vous avez fondé la Revue européenne des médias, qui est une revue trimestrielle éditée par l'IREC. Vous nous rejoignez aujourd'hui pour évoquer la 14e édition de Médias et Société, qui est parue en 2009, éditée chez Mon Chrétien. Une nouvelle édition qui comporte cette fois plus de 800 pages, je crois que c'est 832, où l'on trouve 200 tableaux, schémas et graphiques, ainsi qu'une table de 500 auteurs, acteurs et inventeurs. C'est un ouvrage de référence et c'est une véritable mine d'informations pour tous ceux qui s'intéressent aux médias, tous ceux qui s'interrogent sur leurs évolutions et sur l'influence que les médias exercent sur chacun d'entre nous. Lorsque nous parlons de médias, il s'agit à la fois de l'édition, de la presse, du cinéma, de la radio, de la télévision, et bien sûr, désormais, d'Internet. Cette 14e édition de Médias et Société nous permet en effet de prendre la mesure de la révolution numérique qui, avec la mondialisation de l'économie, inaugure, comme vous le soulignez, une nouvelle ère, à la fois pour les médias et pour les collectivités qui composent la société. Donc, Monsieur Ball, avant que je vous questionne sur le contenu de cet ouvrage, pouvez-vous nous le présenter rapidement et nous en donner les grandes lignes ?
Écoutez, son fil conducteur n'a pas changé depuis 1980, c'est-à-dire depuis sa première édition. Donc, pendant les 14 éditions, j'ai essayé, dans le même ouvrage, de parler de tous les médias, depuis par conséquent la presse jusqu'à Internet, en passant par la radio, la télévision et le cinéma. Je l'ai fait de façon pluridisciplinaire, à travers trois panneaux, trois parties distinctes. La première récapitule un peu l'histoire sociologisante des médias depuis la presse, depuis Gutenberg, jusqu'à aujourd'hui. La deuxième dit ce que les règles sont pour organiser ces différents médias, car les règles ne sont pas les mêmes selon les pays. Donc j'ai établi une typologie en fonction des différents pays, selon qu'ils interviennent plus ou moins dans le domaine de la réglementation. Et puis enfin, troisièmement, la troisième partie concerne ce que les médias font aux gens, ce que les médias par conséquent font aux sociétés. Le fil conducteur étant qu'au fond, si l'on veut savoir ce que les médias font à chacun d'entre nous, il faut d'abord s'interroger sur la question de savoir ce que les sociétés font avec les médias. Car les sociétés, évidemment, n'en font pas toutes la même chose. Elles décident de les organiser différemment. Elles ne leur assignent pas forcément les mêmes missions. Et du même coup, bien entendu, selon ce que les sociétés font avec le cinéma, avec la radio ou avec la télévision ou avec Internet, évidemment, ces différents médias n'agissent pas sur nous de la même façon.
Dans cette 14e édition de Médias et Sociétés, vous mettez l'accent sur la révolution numérique et sur l'ensemble des bouleversements qu'introduit Internet dans le paysage des médias. Quels sont à vos yeux les principaux bouleversements, leurs conséquences et qu'avez-vous observé notamment depuis 2007-2008
En 2007-2008, on croyait encore que Internet était un média de plus. Un média différent, certes, avec des potentialités, des performances différentes, mais que c'était un média au même titre que la presse, le cinéma, la radio et la télévision. Et depuis 2 ans, et peut-être devrais-je dire depuis quelques mois seulement, on réalise à quel point la révolution numérique, c'est-à-dire ce qui a permis Internet, la numérisation de tous les signaux, qu'il s'agisse de la numérisation des textes, de la numérisation des sons ou de la numérisation des images, on s'est rendu compte que, au fond, Internet n'était pas seulement un média, mais que c'était aussi un outil qui redistribuait les cartes et qui faisait à lui seul tout ce que les autres font séparément. Puisqu'après tout, Internet fait de la presse, il fait du téléphone, il fait de la radio, il fait de la télévision, c'est-à-dire qu'il récapitule aujourd'hui, grâce encore une fois au numérique, grâce au passage des signaux analogiques vers les signaux numériques, il récapitule une histoire des médias qui, depuis 150 ans, a été illustrée tous les 25 ans, si l'on y réfléchit bien, par une nouveauté, une innovation. Car au fond, ce qui véritablement fait la singularité d'Internet, c'est qu'il récapitule 150 ans d'histoire des médias. En 1850, on a vu apparaître les grands journaux millionnaires par les tirages, grâce aux rotatives. En 1875, on a vu apparaître le téléphone. En 1900, à quelques années près, le cinéma. En 1925, popularisation de la radio. En 1950, généralisation de la télévision. Et en 1975, 25 ans plus tard, par conséquent, la télévision est désenclavée, la télévision est démultipliée grâce aux câbles et aux satellites. Après n'avoir reçu chacun que 3 ou 4 chaînes de télévision, on pouvait en recevoir 50 ou 500. Et aujourd'hui, ce qui bouleverse le paysage des médias auxquels nous étions habitués, où au fond une certaine coexistence pacifique s'était instaurée entre les différents médias, ce que l'on constate, c'est que Internet fait à lui seul tout ce que les autres ont fait jusqu'à présent depuis 150 ans séparément. Puisque vous pouvez regarder un film sur votre écran d'ordinateur et même sur l'écran de votre netbook, comme on dit, c'est-à-dire d'un petit ordinateur, même sur un écran de téléphone, vous y recevez la radio. Vous pouvez bien sûr téléphoner, donc Internet récapitule toute cette histoire, ce qui est tout de même un bouleversement considérable parce que tous les anciens se demandent s'ils vont pouvoir survivre longtemps.
Mais les anciens, bon, je pense notamment à la presse écrite, vous écrivez, je crois, que l'imprimé et l'audiovisuel sont devenus complémentaires. Donc au fond, Internet menace-t-il réellement l'existence de la presse écrite ? Quel est votre
Il menace la presse écrite, la presse imprimée, c'est quand même beaucoup de choses. Depuis les grands journaux généralistes, la grande presse quotidienne nationale, la grande presse quotidienne régionale, et puis aux deux extrémités, vous avez des journaux qui sont très spécialisés, qui se consacrent à un seul sujet, ou qui sont destinés à un seul public, les adolescents, les 35-45 ans, les plus 65 ans, etc. Et puis, d'un autre côté, vous avez des publications ultra spécialisées, souvent vendues par abonnement très chères, comme des lettres confidentielles, la lettre de l'expansion, etc., qui s'adressent par conséquent à des publics extrêmement minoritaires, mais très solvables, et qui ont un besoin pressant de recueillir de l'information périodiquement, toutes les semaines ou tous les mois, sur un sujet bien particulier. Donc quand on dit la presse, il faut bien songer que ce n'est pas seulement les grands journaux nationaux ou les grands journaux régionaux. C'est une presse extraordinairement diversifiée qui parfois ne coûte pas très cher à celui qui l'achète parce que la publicité comble, si j'ose dire, les déficits. Et puis d'un autre côté, vous avez une presse extrêmement chère pour le lecteur qui en a, lui, un besoin pressant. Alors, le modèle qui est le plus menacé aujourd'hui dans son existence, c'est évidemment ce que l'on voit immédiatement, ce que l'on a présent immédiatement quand on pense à la presse, c'est-à-dire les grands quotidiens généralistes. Oui. La presse d'information générale et politique, c'est-à-dire la presse qui est généraliste, la presse qui est née au milieu du XIXe siècle, qui voulait aborder tous les sujets et qui voulait s'adresser à tout le monde. Aujourd'hui, ce modèle, il est incontestablement menacé, menacé par les gratuits, par les journaux gratuits, menacé par les sites d'information d'Internet, menacé par la presse spécialisée, qu'elle soit spécialisée par le public ou par le sujet, ou qu'elle soit hautement spécialisée lorsqu'il s'agit de feuilles confidentielles ou presque confidentielles lorsqu'elles s'adressent à des publics extrêmement minoritaires. Donc c'est vrai que ce modèle-là est aujourd'hui gravement menacé parce qu'encore une fois, on a la possibilité de s'informer ailleurs, autrement, parfois mieux, en tout cas autrement, que par la seule lecture des journaux dont on pensait en 1850 qu'ils avaient l'éternité devant eux, dont on pensait qu'ils étaient à eux seuls la presse. Et ce n'est pas par hasard si d'un journaliste on dit que c'est quelqu'un qui travaille dans un journal.
Pensez-vous que cette presse quotidienne d'information, notamment, a encore des atouts, qu'elle puisse survivre ? Elle-même a tendance à créer des sites Internet qui sont des sites compagnons.
Elle ne se fait pas concurrence à elle-même par des sites compagnons, parce qu'au contraire, elle s'assure une visibilité, c'est un peu comme une vitrine. Donc, on a envie d'entrer dans le magasin, si j'ose dire. Donc, on voit par Internet, par les sites compagnons qu'ils ont eux-mêmes ouverts, ce dont ils sont capables, mais ils ne donnent pas tout sur ces sites d'information. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent constituer une invitation à s'abonner simplement ou à acheter le journal imprimé. Ou bien alors, ils sont une invitation à aller plus loin, c'est-à-dire à payer pour avoir un article dans son intégralité, ou éventuellement des archives, ou éventuellement des articles qui vont plus loin que ne peuvent le faire les journaux imprimés. Ne croyons pas que le numérique va remplacer l'imprimé, que le site compagnon, c'est un peu comme si un journal se tirait une balle dans le pied. Pas du tout, pas du tout, parce que les deux supports, les deux médias sont parfaitement complémentaires.
En revanche, ils ont la concurrence de sites nouveaux créés de toutes pièces, de sites Internet d'information générale.
Ces sites nouveaux, parfois, révèlent des choses que la presse trop institutionnelle, trop frileuse peut-être, ne révèle pas au grand public. Il ne faut pas oublier que le précédent, ce fut l'affaire déjà ancienne de Monica Lewinsky aux États-Unis, où cette affaire qui concernait le président des États-Unis, Bill Clinton, a été révélée par un site d'information de Los Angeles, et que 3 jours après, évidemment, l'ensemble de la presse américaine ne pouvait plus ne pas parler de ce qu'elle savait, mais de ce qu'elle s'était interdit jusque-là de parler. Ça a commencé par Newsweek et puis ensuite le Washington Post a suivi.
Si nous revenons en France, pensez-vous que la presse écrite a encore des atouts et que pensez-vous des mesures qui ont été adoptées cette année à la suite des états généraux de la presse et annoncées par le président de la République?
Écoutez,
au mois de janvier.
Ces états généraux ont permis au fond de faire le point, d'inviter, et c'est leur plus grande vertu, les journaux à réfléchir sur ce qu'ils pourraient faire demain pour utiliser au mieux les perspectives ouvertes par le numérique, de faire différemment peut-être ce qu'ils font aujourd'hui, prenant conscience que désormais le modèle du journal qui parle de tout à tout le monde était peut-être un modèle en voie de révision au moins. Et puis quant aux dispositions qui ont été prises et qui ont été la conséquence de ces états généraux, c'est-à-dire on va subventionner, aider le portage, on va aider à la modernisation des outils de l'impression, tout ça contribue évidemment à diminuer les coûts des entreprises de presse, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais si je voulais être sévère, je dirais qu'au mieux, ça a permis à la presse quotidienne de se rendre compte qu'elle n'était désormais plus seule et que par conséquent, il était temps qu'elle ne s'arroge pas une espèce de monopole sur l'information qui appartient à une époque révolue. Le journal, au sens où Hegel en parlait, au sens où Alfred Sauvy encore en parlait dans les années 1970, est descendu de son piédestal. Et au pire, les aides qui ont été apportées ne sont guère que des cautères sur une jambe de bois, parce que concrètement, ça permettra d'arrondir quelques fins de mois, mais ce ne sont pas des solutions qui peuvent être pérennes, car incontestablement, la presse est obligée aujourd'hui, confrontée au défi du numérique et des sites d'information, qui se livrent une bataille extrêmement rude, qui ne sont pas tous nés dans le giron d'entreprises de médias, mais qui sont parfois nés simplement d'Internet. Là, véritablement, le défi, il est devant les journaux, et par conséquent, ils ne peuvent pas ne pas s'interroger sur ce qu'ils doivent faire. Ce qu'il doit faire, c'est simple, il faut regarder les choses en face. Je crois que dans 5 ou 10 ans, il y aura moins de journaux quotidiens, nationaux ou régionaux généralistes. Il y aura tout autant peut-être qu'aujourd'hui des journaux qui seront gratuits, mais les gens auront envie de payer pour avoir des analyses, pour avoir des commentaires, pas pour avoir des faits, parce que les faits, mon téléphone me les apporte gratuitement. La télévision me les donne tous les soirs et tous les matins gratuitement. Les journaux, maintenant, me les donnent dans le métro 20 minutes ou métro gratuitement. En revanche, si je veux avoir des analyses, si je veux avoir des commentaires, et ce n'est pas la même chose, l'analyse exige de la rigueur, le commentaire, il est libre, donc il est forcément coloré, de droite, de gauche, du centre, etc. Là, je paierai. Et probablement que dans 5 ou 10 ans, lorsque vous m'inviterez pour la 17e ou 18e édition de Médias et Sociétés, ne subsisteront à l'échelle nationale en France qu'un journal comme Les Échos, comme équivalent du Wall Street Journal pour les États-Unis. Incontestablement, sur les 3 auxquels on pense, les 3 généralistes auxquels on pense, il y en aura probablement au moins un qui aura disparu. Les 3, évidemment, c'est Le Monde, Le Figaro et Libération. Je veux bien prendre le pari avec vous, le couteau sous la gorge, qu'il y en aura au moins un qui va disparaître dans les 5 années qui viennent. Et les 2 autres n'ont de chance de survie que s'ils jouent la carte de la qualité, de la différence par rapport à ce que font les journaux gratuits et la télévision, qu'ils approfondissent par les analyses sur le terrain de la rigueur, et que simultanément, s'ils veulent continuer à vivre tous les 2, Le Monde et Le Figaro, ils cessent de jouer sur les 2 registres de l'impartialité et du journal partisan, car on ne pourra pas toujours faire vivre un journal assis entre 2 chaises. Car pour un journal, s'il veut garder la confiance de ses lecteurs, ou bien il joue la carte à fond de l'impartialité, il est neutre, à la manière de certains grands journaux américains donnant la parole lorsqu'il ne peut pas faire autrement dans un éditorial de droite sur la colonne de droite et dans un éditorial de gauche, c'est-à-dire les démocrates là-bas sur la colonne de gauche. Ça, c'est la meilleure manière, évidemment, de jouer l'impartialité quand on ne peut pas ne pas donner des commentaires. Et nous attendons des commentaires. On a envie d'avoir un commentaire vu de droite. On a envie d'avoir parfois un commentaire vu de gauche de la même façon. Et puis l'autre solution, c'est de dire tout de suite, nous sommes un journal plutôt de centre-droit, plutôt de centre-gauche, mais de jouer carte sur table. Et ceux qui ne voudront pas jouer carte sur table, je crois qu'ils sont condamnés. Le Matin, par exemple, un quotidien que nous avons connu il y a quelques années, est mort de ne pas avoir su choisir entre les deux. Alors tantôt il se disait impartial et tantôt il se disait proche du Parti socialiste. Vous ne pouvez pas dire les deux en même temps.
Pensez-vous que le journalisme doit être réinventé ?
Je ne crois pas. Les lois qui ont été édictées pour le journalisme, lorsque le journal est devenu autre chose que l'appendice d'un courant de pensée, lorsque le journalisme par conséquent s'est voulu neutre, impartial, indépendant, racontant l'histoire aussi objectivement que possible, aussi impartialement que possible, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, lorsque le journalisme s'est évadé et s'est émancipé de la littérature ou de la politique, et de la politique, eh bien, les règles d'or de ce journalisme qui a été fondé au milieu du XIXe siècle restent valables aujourd'hui. Ce sont celles que je vous rappelais à l'instant, c'est-à-dire les règles de l'impartialité, les règles de la neutralité, les règles, osons le dire, de l'objectivité, tout en sachant qu'évidemment, on n'aboutit jamais qu'à des vérités qui sont provisoires, imparfaites, partielles, mais qu'elles ne doivent jamais être entachées, en tout cas, ces vérités d'esprit partisan, d'esprit de système, d'esprit de certitude. Et puis, comme n'importe quel professeur le sait, quand on s'est trompé, il faut tout de suite le dire. Parce que le devoir de vérité, il a aussi une contrepartie, c'est le droit à l'erreur. Personne n'est infaillible, simplement quand on s'est trompé, il faut avoir le courage de le dire.
Je vous remercie, je vous propose de marquer une courte pause et de reprendre dans quelques minutes notre émission. Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie où nous recevons cet après-midi Monsieur Francis Ball, professeur de sciences politiques à l'Université Panthéon-Assas de Paris 2, directeur de l'IREC à Paris 2 et spécialiste des médias. Nous évoquons avec lui la 14e édition de son ouvrage de référence « Médias et société ». Monsieur Ball, nous avons évoqué les bouleversements introduit par Internet dans le paysage des médias et analysé notamment les bouleversements de la presse écrite et la crise que traverse actuellement la presse écrite et notamment la presse d'information générale. Je voulais aussi aborder avec vous la télévision. La télévision n'est-elle pas aussi menacée par Internet ?
Si vous entendez par télévision des images qui nous sont acheminées sur un écran de télévision, bien sûr que non. La télévision aujourd'hui, elle me parvient aussi bien par les ondes hertziennes que par le câble, que par le satellite et que par Internet. Je peux regarder la télévision désormais sur mon ordinateur. Et je peux regarder la télévision non seulement sur mon ordinateur, mais aussi sur d'autres écrans, c'est-à-dire aussi bien l'écran de mon téléphone portable que sur l'écran de la console de jeu de mes enfants, qui est de plus en plus un petit ordinateur, que sur la fameuse tablette qui va sortir dans un mois, c'est-à-dire en février prochain, qui va être lancée par Apple et qui va être un petit ordinateur qui pourra recevoir aussi bien de la télévision que des livres que je pourrai télécharger, etc. Par conséquent, si vous entendez par télévision ce qu'elle a été jusqu'en 1975, depuis sa naissance, c'est-à-dire la possibilité d'acheminer à distance par les ondes hertziennes des images de télévision en direct. Là, effectivement, cette télévision, elle va occuper dans mes loisirs, chez moi, une place de plus en plus restreinte. Ce qui va occuper une place de plus en plus importante, relativement parlant, c'est la télévision que l'Europe, qu'à Bruxelles, on appelle la télévision délinéarisée, c'est-à-dire une télévision à laquelle je donne rendez-vous, moi téléspectateur, alors que j'ai été habitué depuis sa naissance à ce que ce soit elle qui me donne rendez-vous. Nous avons tous vécu cette époque, enfin en tout cas ceux de mon âge ont vécu cette époque, où la speakerine, la télévision donnait rendez-vous aux téléspectateurs. Et nous étions obligés, évidemment, de respecter les heures de rendez-vous, comme quand on va chez le médecin ou chez le dentiste. Désormais, c'est moi qui donne rendez-vous à la télévision. Et de plus en plus souvent, je donnerai rendez-vous à la télévision. C'est-à-dire que ce seront des programmes préenregistrés, ce sont des programmes que je téléchargerai, ce sont des programmes qui me seront acheminés à mesure que je les demande. Ce sont des programmes que je pourrai obtenir lorsque je les ai ratés la veille, parce que je n'étais pas chez moi. Ça, c'est la télévision de rattrapage. Donc, cette télévision-là, elle ne va pas cesser de se développer. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on a pu penser, que la télévision conventionnelle, la télévision qui me donne rendez-vous à heure fixe, à 20h, à 20h30, à 20h45, va disparaître. Parce que ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la paresse du téléspectateur. Quand je rentre chez moi à 20h45, ayant dîné ou pas, je suis forcément fatigué. Je n'ai pas envie de choisir forcément mon programme. Je n'ai même pas envie de regarder quels sont les programmes qui me sont proposés sur les chaînes conventionnelles ou sur les chaînes de complément. Et j'allume, je zappe et puis je prends ce qui m'est offert. Parce que simplement, je n'ai pas envie d'aller chercher dans un catalogue, dans une revue ou dans ma propre vidéothèque, qu'elle soit chez moi ou qu'elle soit à distance, ce que je voudrais regarder. Et donc je regarde un peu n'importe quoi, c'est vrai, ce qu'on m'offre au moment où je le regarde.
J'ai du mal à le croire, C'est vrai, non, je comprends la facilité d'accès, la facilité...
Vous pouvez le croire quand même, parce que les enquêtes sont toujours un tout petit peu biaisées, parce que concrètement, évidemment, on ne va pas avouer qu'on regarde le samedi soir l'émission de la 1 ou l'émission de la 2. En réalité, ces émissions de la 1 et de la 2, elles ont encore beaucoup plus d'audience que ne le révèlent les sondages. Et les responsables de ces chaînes le savent fort bien. Sinon, d'ailleurs, ces programmes, il y a bien longtemps qu'ils auraient disparu des écrans. Donc, ne sous-estimons pas l'envie que les gens ont de se divertir, de ne pas trop se fatiguer, de ne pas regarder à tout instant des documentaires, des docufictions, des programmes qu'il faut avoir vu, ou en tout cas qui sont un signe de distinction, en quelque sorte. Non, il ne faut pas trop surestimer. Et puis après tout, les gens ont le droit de se divertir, les gens ont le droit d'être fatigués, les gens ont le droit de ne pas choisir, de laisser les autres choisir à leur place. Car on s'imagine que nous sommes tous effectivement maîtres de nos choix, que nous exerçons notre libre arbitre quand nous choisissons une voiture, un vêtement, etc. Nous sommes beaucoup plus influencés qu'on ne le dit et qu'on ose l'avouer par les autres et par notre propre paresse.
La télévision de divertissement, la télévision généraliste a donc encore de beaux jours devant
elle. Oui. Elle n'atteindra plus jamais, bien sûr, les performances qu'elle a connues quand elle était seule. Un peu comme la presse quotidienne dont on parlait il y a quelques minutes. Il est clair que quand on est tout seul, évidemment, on accapare la quasi-totalité de l'audience. Et on se la partage à deux ou à trois. Mais là, évidemment, quand vous avez des chaînes de complément, quand vous avez des chaînes sur Internet, il faut bien partager avec les autres. Donc, ce que les autres prennent, vous ne l'avez plus. Donc, les chaînes généralistes, incontestablement, devront réduire la voilure, devront consentir, se résoudre, à avoir des audiences moins conséquentes, moins importantes, moins étendues. Mais elles continueront d'avoir des audiences hétérogènes, disparates, aux attentes donc extrêmement diverses, pour ne pas dire contradictoires. Et elles continueront par conséquent avec ce que l'on voit aux États-Unis, avec par conséquent des plafonds qui pourront aller les plus mauvais jours vers 8 ou 10% et les plus beaux jours, c'est-à-dire les jours où il y a un grand événement sportif, les jours où il y a un grand événement politique, le dernier face-à-face avant la présidentielle aux États-Unis ou en France, là véritablement les grandes chaînes font le plein. Parce qu'en général, c'est à ce moment-là qu'on retourne vers la 1 ou vers la 2, même si les autres diffusent le même programme. Car on est persuadé, à tort ou à raison, mais on est persuadé en tout cas, et c'est ce qui compte, que la 1 et la 2 feront un meilleur programme, commenteront de façon plus pertinente, plus percutante, et puis à travers, évidemment, lorsqu'il s'agit d'un mariage princier ou autre, une personnalité qui est connue, ce que ne peuvent pas s'offrir évidemment les chaînes de complément.
L'année 2009 a vu une nouvelle loi sur l'audiovisuel en France, la loi du 5 mars. qui comporte donc la suppression de la publicité sur les chaînes publiques. J'aimerais avoir votre regard, votre avis sur cette loi et sur ses conséquences. Est-ce que les équilibres entre le secteur public et le secteur privé vont être modifiés ou le sont déjà ?
Sûrement, sûrement. Il y avait déjà un virage amorcé quand même depuis la présidence de Patrick de Carolis et Patrice Duhamel, qui avaient, dans la lignée d'ailleurs de leurs prédécesseurs, pris le virage pour différencier davantage les chaînes publiques des grandes chaînes privées, c'est-à-dire TF1 et M6, et puis Canal, qui a un statut évidemment particulier, puisque c'est une chaîne à péage qui n'atteint par conséquent qu'un public minoritaire. Mais j'oserais presque dire que je n'osais même plus en rêver. Et puis, à la surprise générale, à la surprise de tous, pour dire la vérité, le chef de l'État a pris cette décision extrêmement courageuse, que pas grand monde en tout cas n'avait comprise au départ, dont les médias, qui ne sont pas toujours extrêmement bienveillants, ont pensé que c'était un cadeau qui était fait aux chaînes privées, puisque par définition, la suppression de la publicité sur les chaînes publiques faisait disparaître du jour au lendemain, enfin progressivement en tout cas, c'est ce qui a été décidé après, un concurrent de poids pour les chaînes privées. En réalité, ce fut un acte courageux qui a permis aux chaînes publiques de redevenir un peu ce qu'elles avaient cessé d'être, c'est vrai, car sous la pression de la tyrannie de l'audience, elles avaient eu tendance à ne pas jouer forcément toujours l'exigence, toujours les publics les plus avertis, et à jouer la facilité, donc à jouer le public le plus hétérogène, le plus petit commun dénominateur entre des publics forcément différents. Et la suppression progressive, en tout cas la suppression définitive de la publicité à partir de 20h jusqu'à 6h du matin, est une décision extrêmement salutaire, qui rééquilibre un peu le paysage, qui lui donne une autre configuration, car au fond, une chaîne publique, comme le disait d'ailleurs il y a quelques années, sans jamais avoir été entendu d'ailleurs, Jean Cluzel, lorsqu'il était membre du Parlement en France et lorsqu'il y était chargé plus particulièrement de l'audiovisuel, celui qui a créé par conséquent Canal Académie, il a lancé ce slogan « argent public, chaîne publique », ce qui voulait dire simplement qu'une chaîne publique était forcément tentée de se dévoyer, de se détourner de ses objectifs de qualité lorsqu'elle était financée, fût-ce à dose infinitésimale, mais on sait très bien que dans la brèche, la publicité n'a pas cessé de croître, elle ne pouvait pas ne pas ressembler toujours davantage aux chaînes privées. La seule véritable chaîne publique au monde, osons le dire, c'est la chaîne publique américaine, qui n'est financée que par
PBS.
PBS, le réseau public américain, qui est financé par des dons privés, c'est vrai, mais par des dons privés, par des mécènes, et par une dotation qui est votée par le Parlement, par le Congrès tous les ans, et qui n'a pas du tout de publicité, et qui n'a jamais déroger par rapport aux règles qu'elle s'était fixées au départ, c'est-à-dire d'exceller dans les domaines où, dans les années 60, les chaînes privées américaines avaient failli, c'est-à-dire les émissions pour les enfants et les émissions d'information générale, où le réseau PBS reste un réseau véritablement d'excellence, qui est un modèle pour les autres chaînes.
Si nous revenons à Internet, après la presse écrite et la télévision, je voulais vous demander ce que l'on entend communément par Web 2.0. On parle même aujourd'hui de l'arrivée prochaine du Web 3.0, je crois. Qu'apporte le Web 2.0 ? Pouvez-vous nous dire un mot des blogs, des réseaux sociaux, de leurs usages et des modifications qu'ils introduisent pour notre société?
Le Web 2.0 est un slogan qui a été lancé par le rédacteur en chef de la revue qui se consacre aux nouvelles technologies aux États-Unis, Wired, c'est-à-dire câblé, connecté. Il désigne tous les services d'Internet qui sont alimentés non pas par des éditeurs qui envoie par conséquent, grâce à Internet, des messages en ouvrant des sites sur la toile, mais cet ensemble de sites qui sont alimentés par les usagers eux-mêmes, par les internautes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on inverse un peu la filière. Ce ne sont pas des sites qui trouvent leur place sur la toile, qui sont alimentés par des éditeurs qui ont envie de publier quelque chose, de rendre public quelque chose. Ce sont des sites qui sont offerts aux internautes afin que ceux-ci participent à l'élaboration de leur contenu. Wikipédia, par exemple, est l'encyclopédie fameuse qui est élaborée par les internautes eux-mêmes, qui sont appelés... Alors, le Web 2, c'est un slogan qui rassemble sous une même enseigne l'ensemble des sites qui sont alimentés par les internautes eux-mêmes plutôt que de l'être par des éditeurs qui ont choisi d'ouvrir des sites sur la toile. Le Web 3, c'est ce... Évidemment, on aime les slogans, notamment dans le domaine d'Internet. Le Web 3.0, c'est celui qui mettra en relation les uns avec les autres des objets. C'est l'Internet des objets, comme on dit. C'est-à-dire que concrètement... les objets, un réfrigérateur, un fauteuil de voiture, sera relié à un ordinateur, à un autre par un serveur, et pourra recevoir sur cet ordinateur des instructions. Si par conséquent votre réfrigérateur, grâce à un certain nombre de capteurs, constate qu'il est à moitié vide, il saura quels sont les casiers qui sont vides. Et il sera mis en relation directement, sans que vous fassiez quoi que ce soit, avec votre fournisseur habituel, qui par conséquent fera la commande à votre place si vous en avez donné vous-même la consigne. Donc, ce sont ces objets qui seront dotés de puces, qui seront porteurs de puces, grâce auxquelles on pourra communiquer directement avec eux.
C'est presque de la science-fiction.
Pas vraiment, parce qu'on a déjà ça dans la domotique, dans les équipements ménagers que vous pouvez consulter à distance pour allumer le chauffage de votre résidence secondaire quand vous y allez le samedi soir, vérifier si vous avez bien éteint le chauffage, vérifier à distance. Donc, c'est dans le prolongement de... Et puis, ça ouvre évidemment des perspectives qui ont l'air tout à fait invraisemblables, mais qui existent déjà. Par exemple, le fait que vous puissiez, avec votre propre téléphone, lire un code-barre d'un produit que vous avez envie d'acheter dans un supermarché. Et puis, vous pouvez vous mettre en relation avec votre téléphone, avec un comparateur de prix, qui vous dira tout de suite que ce même produit... est un petit peu moins cher dans tel magasin qui est situé à 100 mètres de là où vous êtes. Bon, on peut tout imaginer, et je veux dire avec la géolocalisation, c'est-à-dire la possibilité, grâce à votre téléphone portable, de savoir toujours où vous êtes, de vous donner à tout instant celles des informations qui vous sont utiles par rapport à l'endroit où vous vous trouvez. C'est-à-dire par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, vous avez envie d'avoir un restaurant italien, vous avez envie d'aller voir un film, mais qui est un film qui est plutôt divertissement plutôt qu'un film d'art et d'essai, eh bien votre téléphone portable, sachant où vous êtes évidemment, va pouvoir, exactement comme aujourd'hui votre GPS vous indique dans votre voiture, si tel itinéraire est chargé ou au contraire s'il est tout à fait fluide. Il va vous suggérer par conséquent un autre itinéraire en indiquant en rouge un itinéraire et en vert un autre itinéraire qui sera peut-être plus long mais qui sera plus dégagé. Donc tout est possible, simplement on ne sait pas encore très bien comment les gens vont accueillir ces différentes innovations. On ne sait pas très bien s'ils y trouveront des avantages ou des inconvénients. Il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance aux ingénieurs. Enfin, les ingénieurs, il ne faut pas trop les écouter parce que de toute façon, ils se trompent toujours quand ils ont inventé quelque chose sur l'usage qu'on va pouvoir en faire. Mais ce que j'ai pu constater depuis mon passage au CSA auquel vous avez fait allusion, où je me suis occupé des nouvelles technologies, c'est que quand on demande à un ingénieur quelque chose, eh bien, il lui faut peut-être un certain temps, mais il finit toujours par trouver une solution. Quand nous avions dit au CSA que véritablement certains programmes ne pouvaient pas être accessibles aux enfants sans que les parents le sachent, Canal+ a très vite invité ses ingénieurs à trouver ce qu'on appelle aujourd'hui le code parental, c'est-à-dire la deuxième carte qui permet de coder simplement certains programmes auxquels les parents estiment que leurs enfants n'ont pas à accéder lorsqu'ils ne sont pas chez eux. Donc, les ingénieurs, ils n'ont qu'une obligation, c'est une obligation de résultat. Et ce qu'on peut constater, c'est que quand on leur demande quelque chose, ils apportent toujours une solution. Ils mettent plus ou moins longtemps, ça coûte plus ou moins cher, mais ils ont toujours la solution.
Dans la 14e édition de votre ouvrage, vous nous expliquez, au fond, comment les médias peuvent concilier l'universalisme et le multiculturalisme, le principe de la diversité culturelle et ce que l'on appelle le village planétaire. Expression, je crois, de McLuhan.
On croyait à l'époque de McLuhan, dans les années 60, que les médias allaient œuvrer dans le sens d'une uniformisation des cultures. C'est-à-dire que, finalement, les cultures allaient être un peu rabotées, se laisser éroder chacune, et qu'une culture universelle, qui à l'époque ne pouvait être le fait que de l'Amérique, que des États-Unis, allait finir par cercle concentrique à s'imposer au monde entier. Et ce que l'on constate, c'est que les médias se diversifiant considérablement, se multipliant considérablement, étant de moins en moins onéreux, car ce qui compte, c'est aussi la barrière à l'entrée, vous pouvez créer votre blog. Et si vous donnez l'adresse de votre blog, le monde entier peut aller sur votre blog, ce qui veut dire que chaque culture particulière, chaque culture minoritaire, a la possibilité désormais, il ne faut plus des moyens colossaux, de s'exprimer au monde entier. Et ce que je crois, c'est qu'il y a, pour les différentes cultures, la possibilité de s'exprimer comme jamais elles ne l'ont eu, donc la moindre culture, dès lors qu'elle le veut, une culture minoritaire à l'intérieur d'un pays, à l'intérieur d'un peuple, ou bien une culture, la culture d'un pays, elle peut s'exporter, en quelque sorte, se montrer sur la toile infiniment plus facilement qu'elle ne le pouvait à l'époque où n'existait que la presse, le cinéma, la radio et la télévision, où les barrières à l'entrée, encore une fois, étaient extrêmement difficiles à franchir parce que ça coûtait très cher. Et le fait que ces différentes cultures puissent cohabiter sur la toile conduit à ce constat qui est tout à fait paradoxal, c'est que chaque société, chaque peuple prend de plus en plus conscience de sa propre diversité et que les sociétés, qui sont des sociétés nationales ou qui sont des sociétés régionales, finissent par se ressembler les unes aux autres à force d'être diverses. Je m'explique. Chaque société est de plus en plus diverse, de plus en plus hétérogène, parce que la moindre minorité a la possibilité désormais d'être visible aux yeux de tout le monde. La société américaine est extrêmement diverse, la société française est extrêmement diverse, et la société américaine finit par ressembler à la société française ou vice-versa à travers cette même diversité. C'est-à-dire que, paradoxalement, donc, mais ce n'est un paradoxe qu'en apparence, les médias qui font le grand écart entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, où vous avez des médias planétaires, CNN, France 24, etc., Canal Academy, et puis ultra minoritaires, c'est-à-dire des radios locales, des télévisions sur le web qui ne s'adressent qu'aux seules personnes ayant tel âge ou ayant tel centre d'intérêt. Les médias font le grand écart entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, de telle sorte que ce qui est de plus en plus visible pour chacun d'entre nous, c'est à la fois la diversité du monde, la diversité des cultures que l'on apprécie, et une diversité au-delà ou en deçà de valeurs qui sont finalement universelles. C'est-à-dire que les médias nous font découvrir à quel point le genre humain est unique, l'unité du genre humain. Au fond, quelqu'un qui est perdu au fin fond d'un pays en voie de développement ou d'un pays très sous-développé, s'il a la télévision, comprend le drame d'une famille comme celle de Dallas, comprend qu'il y a des sentiments qui sont, même si ces sentiments, évidemment, ils s'expriment différemment. Mais on découvre à travers cette diversité l'unité du genre humain, le fait que on peut avoir tous envie d'être heureux, qu'on peut avoir tous envie de profiter des meilleurs systèmes de santé, qu'il n'y a aucune raison pour que dans le monde nous ne profitions pas tous, grâce à Internet, des meilleurs professeurs ou des meilleurs chirurgiens, puisque techniquement tout ça est possible, ce qui ne nous invite pas forcément, bien au contraire, à vouloir à tout prix nous ressembler les uns des autres. Et au fond, il y a une dialectique entre la volonté de ressembler aux autres, de bénéficier parfois des mêmes atouts, des mêmes avantages matériels, parce qu'on sait qu'après tout, il est normal que tous nous aspirions au bonheur. Mais d'un autre côté, on a envie aussi de se distinguer les uns des autres. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la mode. La mode, si on regarde très concrètement notre façon de nous habiller, évidemment, quand nous avons vu quelque chose sur quelqu'un que nous apprécions, nous voulons avoir exactement le même vêtement, mais en même temps, nous voulons aussi nous distinguer de lui. Il y a une dialectique, en quelque sorte, qui fait que plus nous nous mélangeons aux autres, plus nous sommes exposés aux autres, plus nous voulons les imiter tout en voulant nous en distinguer. Donc, on adoptera, sans en être forcément conscient, le même vêtement, mais on voudra quand même que ce vêtement ait une petite différence. Donc, on la sortira d'autre chose. Alors, il se passe au niveau des cultures exactement la même chose, parce qu'ils utilisent les mêmes outils que sont les médias, qui nous précipitent encore une fois vers, d'un côté, l'universel, l'unique, et de l'autre, la différence, c'est-à-dire que nous sommes entraînés par la multiplication des échanges que nous avons avec les autres, multiplication qui est considérablement accrue par les médias, qui nous expose à cette diversité du monde. Nous sommes entraînés, ce qui est une espèce de fatalité infernale peut-être, dans une dialectique de l'imitation et de la distinction dans laquelle nous risquons parfois de nous perdre. Mais en tout cas, nous voulons rester nous-mêmes, nous voulons nous distinguer. Il faudrait presque faire de l'anthropologie pour comprendre à quel point nous voulons à la fois ressembler aux autres, nous voulons avoir des McDonald's, nous voulons avoir les mêmes blockbusters que partout dans le monde, nous voulons bénéficier des mêmes atouts, mais en même temps nous voulons aussi vivre comme nous avons envie de vivre, c'est-à-dire nous n'avons aucune envie de vivre comme des Américains, nous n'avons aucune envie de vivre comme des Japonais, même si, encore une fois, nous pouvons leur emprunter des tas de choses. Même si nous pouvons adopter les mêmes modes, même si nous pouvons avoir les mêmes voitures ou les mêmes outils, et même si nous constatons à travers ces outils que nous utilisons qu'après tout nos besoins fondamentaux sont les mêmes.
Vous nous avez décrit cette accélération des mutations depuis quelques années, mutation des médias, sans vouloir s'essayer à la prospective, ce qui est toujours peut-être difficile. Pouvez-vous, en conclusion de cet entretien, nous indiquer peut-être quels sont selon vous les nouveaux services et usages, notamment d'Internet, dans les années qui viennent, et si vous avez des craintes ou espoirs à formuler ou recommandations.
Des craintes ou des espoirs,
ou des recommandations.
Je ne serai ni optimiste ni pessimiste. Vous savez, vous connaissez la formule. L'optimiste est un imbécile heureux et ce qui différencie du pessimiste, c'est que lui, il est un imbécile malheureux. Donc, je ne voudrais être ni heureux ni malheureux, ni en tout cas pas imbécile. Donc, je ne dirais qu'une chose, c'est que l'avenir n'est écrit nulle part et que si l'on veut essayer de savoir dans quelle direction Internet nous conduit, vers quels services il nous conduit, quels sont les services qu'il va privilégier par rapport à d'autres usages, je dirais volontiers qu'il ne faut pas regarder aujourd'hui, il ne faut pas écouter les ingénieurs qui ont inventé ces outils, car ils se sont toujours trompés sur l'usage que les hommes, leurs contemporains, allaient en faire et leurs successeurs allaient en faire. Il faut écouter du côté des besoins de la société. Les besoins de la société au XIXe siècle, quand il y a eu des rotatives, ça a donné naissance aux grands journaux, parce que la liberté d'expression venait d'être proclamée à la fin du XVIIIe, aux États-Unis, en Europe, 1776-1789, et puis les gens du milieu du XIXe siècle n'en avaient jamais vu véritablement la couleur. Et ils se sont dit que la rotative, elle pouvait servir finalement à offrir à tous une information générale et politique et indépendante par conséquent, c'est-à-dire impartiale. Et ce qui donnait raison à Hegel lorsqu'il avait dit en 1820 « La lecture du journal sera la prière du citoyen moderne ». Cette idée selon laquelle, pour me sentir membre de la société dans laquelle je vis, de la cité, ben, il fallait que je sois au courant de ce qui s'y passe et que je lise tous les jours, par conséquent, un quotidien. Donc le quotidien a répondu à un besoin qui n'avait pas du tout été senti ni pressenti par ceux qui avaient forgé les premières rotatives, un besoin d'information. Quel était le grand besoin auquel la télévision, qui restera le grand média du XXe siècle, du siècle dernier, c'est un besoin de divertissement. C'est un besoin de divertissement. La télévision a apporté au XXe siècle à tous le divertissement, comme le journal quotidien avait apporté à tous l'information au XIXe siècle. Alors, qu'apporteront Internet et toutes les entreprises qui sont nées d'Internet, Google, Yahoo, MSN, les portails Orange, Neuf et j'en oublie forcément, qu'apporteront-ils au XXIe siècle? Eh bien, ce dont nous sommes le plus malheureux aujourd'hui, ce dont nous souffrons le plus, ce dont nous avons le plus besoin, et je crois que ces besoins, ils sont aujourd'hui dans deux secteurs où les insatisfactions sont grandes et où les attentes sont extrêmement importantes. C'est le secteur de l'éducation, où véritablement on a l'impression que tous les systèmes d'éducation, les écoles, les lycées, les collèges, institués au XIXe siècle, dans le prolongement des grandes universités du Moyen-Âge, etc., ressemblent un peu à un tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire qu'on y met de plus en plus de moyens, et puis les insatisfactions sont de plus en plus grandes, et les insatisfactions, elles ne s'expriment pas seulement à travers les parents ou les étudiants ou les élèves, mais du côté des professeurs aussi, qui se rendent bien compte qu'on ne peut plus aujourd'hui, avec les outils dont nous disposons, enseigner comme on enseignait il y a 20 ans seulement ou il y a 50 ans. Il y a 50 ans, ceux qui lisaient leurs polycopiers voyaient ces amphithéâtres désertés. Aujourd'hui, si vous trouvez sur des sites, etc., ce qu'on peut faire dans un amphithéâtre, évidemment, les étudiants ne viennent plus. Donc ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin de face-à-face, ils ont besoin d'une pédagogie rapprochée, ils ont besoin d'enseignements dirigés, mais pas forcément de grands cours, même si le grand cours n'est pas demeure irremplaçable. Donc, premier secteur, je crois beaucoup à l'avenir de la formation à distance, de l'e-learning, comme on dit. Et le deuxième secteur, c'est celui de la santé. Évidemment, on a tous le souci de sa propre santé. On est tous à des degrés divers hypochondriaques. On a tous peur de la maladie. Et il est probable que dans le secteur de la santé, Internet pourra offrir un certain nombre de services pour résoudre des petits problèmes. Évidemment, les problèmes plus importants ne peuvent être résolus que dans un face-à-face. Mais les petits problèmes peuvent être résolus par Internet. À condition, évidemment, que ces sites qui sont des sites d'information sur la santé, soient des sites très professionnels, très contrôlés, qui ne fassent pas n'importe quoi et qui ne disent pas n'importe quoi. Donc je crois que vous me dites quels sont les nouveaux services et les usages d'Internet demain. Je pense que ce sont les deux secteurs dans lesquels probablement, au-delà évidemment du commerce à distance, mais le commerce à distance, ça y est, il est déjà bien parti et il ne va faire que progresser, ça va de soi. Les transactions à distance, acheter au dernier moment un week-end à Budapest parce qu'il est complètement bradé ou un séjour à l'île Maurice parce qu'il est bradé sur Internet, ça c'est déjà... Donc dans le domaine des loisirs, dans le domaine du commerce électronique, dans le domaine des transactions à distance, évidemment Internet permet de faire des choses que normalement n'importe quelle agence ne peut pas faire. Une agence de tourisme ne peut pas vous brader au dernier moment, la veille, un week-end à Prague ou à Budapest. Seul Internet permet de le faire parce que vous êtes chez vous, vous avez 3 jours devant vous, vous ne savez pas où partir demain matin, vous regardez Internet et puis vous prenez évidemment votre... Vous avez ça parce que c'est avec un rabais considérable. Donc, on va voir se multiplier ça Mais c'est déjà parti, ça. Là où on n'a pas encore trouvé les recettes, c'est dans le domaine de la santé et surtout dans le domaine de l'éducation. Je crois que l'éducation pour tous, la formation continue pour tous, c'est vraiment l'enjeu du XXIe siècle. Et les systèmes qui ont été instaurés, institués il y a deux siècles, héritiers des écoles, des lycées et des académies de Platon ou d'Aristote, incontestablement, ça fonctionne de plus en plus difficilement. On sent qu'on en a besoin, mais elles ne peuvent plus fonctionner selon les règles qui ont été établies il y a un siècle ou un siècle et demi. Ce n'est pas possible. Ce qui ne veut pas dire que le présentiel, comme disent les pédagogues, ne soit pas indispensable. Mais ça veut dire simplement que le professeur ne fera plus tout à fait ce qu'il faisait il y a 20 ou 30 ans. Il ne sera plus là dans une relation unidirectionnelle où il dispense du savoir. Il demandera aux étudiants d'abord d'avoir appris quelque chose avec des outils qui auront été faits intelligemment à cette fin. Et puis après, il viendra comme Socrate sans aucun outil pour discuter d'un sujet et en dialoguant par conséquent avec des gens qui savent déjà quelque chose. Il ne sera plus un transmetteur unidirectionnel de savoir, il sera redevenu dans sa classe tel que Socrate, c'est-à-dire dialoguant, discutant, délibérant à partir d'un savoir commun, mais qui aura été acquis autrement que dans des cours magistraux, dans des cours où le professeur, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants devant lui, est le seul à pouvoir parler. Et ça, je crois qu'il y aura encore des grandes conférences, bien entendu. Il y aura encore des grands cours magistraux, ce à quoi ont renoncé les Américains, mais dont ils redécouvrent la vertu. Car les grands cours magistraux, ça, c'est une spécialité très française, c'est une spécialité très allemande. C'est-à-dire, on demande à quelqu'un qui est au sommet de son savoir dans un domaine bien particulier de dire en 45 minutes l'essentiel sur une question, sur un sujet. Et ça, on n'est capable de le faire que quand on est vraiment au sommet de son savoir, quand on a véritablement bien assimilé. Et ça, cet exercice, il est très utile pour les étudiants parce qu'il leur permet de voir comment on peut résumer une question. Ça leur donne un esprit de synthèse, ce dont sont incapables les étudiants américains en général. Capables d'analyse, oui, mais capables de synthèse, non. Nous, on pêche plutôt en sens inverse. On demande plutôt des synthèses style Sciences Po ou ENA. Et l'analyse, mon Dieu, pour peu qu'on soit brillant, ça n'a pas grande importance, ce qui est évidemment tout à fait condamnable. Donc, je renvoie un petit peu dos à dos le système Sciences Po ENA et le système américain où, véritablement, ils analysent très bien, mais où ils sont, si vous les prenez à froid pour leur dire « mais qu'est-ce que vous pensez en 5 minutes de telle question ?» Là, ils sont complètement perdus. Et c'est vrai que pour ne parler que de 5 minutes d'un sujet sur lequel on travaille depuis des années, il faut véritablement être au sommet de ses connaissances, parce qu'il faut véritablement être allé très loin dans l'analyse pour pouvoir immédiatement voir faire une synthèse. Et donc dire tout de suite à quelqu'un qui vous interroge en 2 minutes. Et si vous n'êtes pas capable de dire en 2 minutes ce sur quoi vous avez travaillé pendant des années, c'est que vraiment, c'est pas mûr.
Monsieur le professeur, je vous remercie pour cette brillante synthèse, ces brillantes analyses et
merci
pour nous avoir permis aujourd'hui de mieux comprendre les médias, leurs mutations et aussi la question des relations entre les médias et les collectivités qui composent la société. J'invite nos auditeurs qui veulent approfondir ces sujets passionnants à lire la 14e édition de Médias et Sociétés, publiée aux éditions Bon Chrétien. Et je vous remercie à nouveau et espère vous retrouver pour la prochaine édition sur les ondes de Canal Académie.
Merci à vous.